C'est un initiative des frères de Guinée, et en particulier à celle de notre frère regretté frère, au fond tuin, que nous avons déterminé à choisir ce sujet, proposé par le frère de Jumette l'année dernière, après la fin de nos rencontres ayant pour sujet l'Épître aux Colossiens. Nos frères ont suggéré que nous considérions une partie du livre de Néhémie. Mais pour donner un cas, disons, ou une introduction, nous avons, de commun accord, réalisé que ce serait avec intérêt que nous aurions devant nous le prophète Agée. Les circonstances du retour de Juda de la captivité babylonienne comportent une foule d'enseignements, parce que la situation de ce reste remonté de la captivité, sur le plan matériel sans doute, offre un parallèle et une analogie remarquable avec le temps dans lequel nous vivons, tant qui concerne le témoignage du Seigneur, réveillé, suscité au siècle dernier, par un effet de sa grâce et de sa miséricorde, tout comme ce résidu, ce reste de Juda, après 70 années de captivité, remontait dans sa terre, par un effet de la grâce de Dieu, qui jamais n'oublie ses promesses. Les dons et l'appel de Dieu sont sans franchise. Cette captivité qui avait commencé la première année de Nebuchadnezzar, lors du premier coup tombé sur Jérusalem, avait duré 70 ans jusqu'au temps de Cyrus le Perse, nous savons bien. Et la première année de son règne, l'Esprit de Dieu le réveille pour promulguer cet édit célèbre par lequel les restes de Juda pouvaient remonter à Jérusalem. Et nous assistons à cet élan remarquable, plein de fraîcheur, du commencement. Mais hélas, c'est là que ce parallèle s'affirme. Hélas, bientôt, à ce début remarquable, à cet élan du cœur succède le découragement, le relâchement, la lassitude. Et puis, Dieu se met à l'œuvre. Suscite par son esprit des prophètes qui agissent au milieu de ses rêves, au milieu de ce régime de Juda. Donc, après cet élan du début, et qui se concrétise, nous le savons bien, par le rétablissement du culte, l'autel, le sens visible de leur relation avec Dieu, nous assistons toute cette histoire, pleine d'intérêt du peuple de Dieu, et qui offre une foule d'applications avec les temps dans lesquels nous sommes parvenus. Un résidu très faible, Dieu, envers un résidu très faible, Dieu intervient dans ses compassions et suscite pour ce temps-là des éléments, des prophètes qualifiés pour agir sur son cœur et sur sa conscience afin de le ramener à ce zèle du commencement qui regrettablement relâché. Voilà ce que nous avons devant nous. Nous aimons accueillir nos frères qui sont venus de l'étranger avec bonheur, avec reconnaissance. Nous ne désirons nullement restreindre la liberté de l'esprit, sans doute, mais il nous sera permis de recommander aux frères d'ici du pays d'être brefs, s'ils ont quelque chose à nous dire, pour profiter dans toute la mesure du possible des frères que l'on passe souvent l'habitude d'avoir au milieu de nous. Avec le vœu que le Seigneur emploie sa parole pour notre bien et notre bénédiction tous. Chapitre 1er, Agée donc. La seconde année de roi Darius, au sixième mois, le premier jour du mois, La parole de l'Éternel vint par l'agrès de prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josua, fils de Josadac, le grand sacrificateur, disant: ainsi parle l'Éternel des armées, disant: ce peuple dit: le temps n'est pas venu, le temps de la maison de l'Éternel, pour la bâtir. Et la parole de l'Éternel vint par l'agrès de prophète, disant: est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées, tandis que cette maison est dévastée? Maintenant, ainsi dit l'Éternel des armées, considérez bien vos voies. Vous avez semé beaucoup et vous rentrez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, mais vous n'en avez pas assez. Vous vous vêtez, mais personne n'a chaud. Et celui qui travaille pour des gages travaille pour les mettre dans une bourse trouée. Ainsi dit l'Éternel des armées, considérez bien vos voies, montez à la montagne, et apportez du bois, et bâtissez la maison, et vous prendrez plaisir, et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous vous attendiez à beaucoup, et voici, ce n'a été que peu. Et vous l'avez apporté à la maison, et j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est dévastée, et vous courez chacun à sa maison. C'est pourquoi au-dessus de vous les cieux ont retenu la rosée, et la terre a retenu son produit, et j'ai appelé une sécheresse sur la terre, et sur les montagnes, et sur le blé, et sur le bouc, et sur l'huile, et sur ce que le sang rapporte, et sur les hommes, et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains.
J'ajouterai simplement quelques mots. Dans ma introduction, un sujet qui, par la grâce de Dieu, nous saisira tous. En appelant notre attention sur quelques points qui peuvent constituer une préface à l'étude attentive de ces quatre messages successifs qu'Agée le prophète, au nom de l'Éternel, adresse à son peuple. Qu'était cette terre que l'Éternel privait depuis des années de toutes les bénédictions d'en haut? C'était le pays qu'il avait donné au Père. Il avait promis de donner à leur semence un pays sur lequel lui-même disait, au moment d'y introduire le peuple: c'est un pays sur lequel l'Éternel a continuellement les yeux. Pour les pères, il avait une valeur historique. Il y avait la caverne de Macpéla, avec les cendres d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'était la terre des terres. Nationalement, ils ne l'avaient point oubliée. Elle était dans leur cœur. Et au sceau de Babylone, ils avaient suspendu leur harpe, par possibilité de louer Dieu hors des limites de ce pays dont l'Éternel avait dit: mes yeux et mon cœur seront toujours là. Et il avait dit particulièrement que cette maison qu'il ne cesse pas d'appeler sa maison, dans le jour de la glorieuse dédicace, quand le temple bâti selon ses indications avait reçu la présence même de Dieu, l'habitation de sa gloire. mes yeux et mon cœur seront toujours là. Il avait eu tout un temps de bénédiction, David, dans son zèle pour Dieu et pour le peuple de Dieu, avait mené à bonne fin les combats de l'Éternel. Mais ce qui était dans son cœur d'une manière toute spéciale, c'était les sentiments qui remplissent le psaume 132e. Et dans son affliction pour la maison de son Dieu, dans son affection pour la maison de son Dieu, il avait tout accumulé des richesses multipliées, surabondantes, nécessaires pour la construction de cette maison de Dieu à Jérusalem, là où était l'arche de l'Alliance, et qu'il avait rempli de sa gloire dans le jour de sa dédicace. À qui est adressé ce premier message? D'abord à Zorobabel, fils de Shealtiel, un gouverneur de Juda, un descendant de David, de la race royale, restait ce qui était comme un petit, un humble, un faible rejeton, même si le roi, qui avait reçu le gouvernement depuis que Israël avait été mis de côté, loigné par mon peuple, un faible rejeton de la semence royale, il avait été placé là non pas comme roi sur le trône, mais il était gouverneur sur le pays. Il administrait le pays de la part de ce second empire des nations à qui Dieu avait confié l'ordre et le gouvernement. Et qu'était devenu cette maison? Qu'était devenue la ville royale, la cité bien-aimée? Un amoncellement de ruines. Qu'était devenue la muraille? Des brèches nombreuses l'ouvraient à tous les adversaires. Qu'était devenu ce résidu? On vient de nous le rappeler. Et le message qui vient à Néhémie, quelque temps après, le décrit très bien. Ce peuple est dans une grande misère. Et une fois de plus, il semblait que l'ennemi avait une apparente victoire. Et que le propos de Dieu à l'égard de son peuple était comme mis en veilleuse avec une ombre sur le cœur de tous. C'était le temps du découragement, parce que ce qui était le fond de la nature humaine, l'égoïsme, le souci de soi, avait pris le pas dans le cœur de ce petit résidu sur ce qui était dû à son Dieu. Nous n'avons pas besoin d'aller plus loin sans que dans nos cœurs à chacun, le parallélisme s'établisse à notre propre confusion. Pour notre humiliation entre l'aspect du pays, la déchéance chez tous, les sentiments qui s'agitaient, exprimés ou inavoués dans le cœur de tous, et ce qui, il nous faut bien le confesser et le reconnaître, est maintenant l'aspect visible, extérieur, de ce qui est devenu le témoignage confié à notre responsabilité. Il n'y a point là de pessimisme ou de commande, mais il y a là quelque chose qui nous saisit, qui nous pénètre, qui nous confond, qui nous jette sur nos faces. En sorte que le premier de ces messages sur lequel nous désirons porter notre attention est essentiellement un message de répréhension. C'est comme si Dieu justifiait, au regard de ce qui restait encore de vivant, là, dans Jérusalem, à l'égard de ce qui était particulièrement responsable, car c'est ici qu'il faut que nous nous arrêtions un moment sur les destinataires du message. Il était bien pour tous, mais la parole de Dieu vint par Agée le prophète à Zorobabel et à Joshua, fils de Josadac, le grand sacrificateur. Il y avait là un double élément responsable, et si nous n'avons rien dit encore de ce qu'était devenu la sacrificature, il nous suffit de penser à ce que Zacharie est contraint de rapporter de la part de Dieu quant au même Joshua, que Satan accusait devant l'Éternel parce qu'il était vêtu de vêtements sales. Il avait entièrement compromis ce qui était le privilège et le devoir de cette souveraine sacrificature. Et Satan avait beau jeu pour l'accuser devant celui qui prend connaissance de toute situation morale et spirituelle. Une royauté qui ne pouvait plus s'exercer et une sacrificature qui avait fallu à sa mission. C'est à cela que l'Éternel paragé s'adresse. C'est un sombre tableau, mes chers amis. Nous n'en chargerons jamais assez les détails pour ce qui est de la confession et de l'humiliation qui s'impose à nos cœurs. Si le premier message est un message de répréhension, celui auquel on a arrêté la lecture est un message d'encouragement dans le même moment où Dieu montre la plaie et fait connaître le pourquoi de ses disciplines. Dans le même moment, parce que le cœur du peuple est incliné à écouter, l'Éternel s'adresse au peuple. Agée, le messager de l'Éternel, parla au peuple par le message de l'Éternel, c'est le verset 13, disant « Je suis avec vous ». La même grâce qui nous humilie, car on est vraiment humble et humilié que lorsque la grâce travaille dans nos cœurs, c'est la grâce seule qui peut produire en nous ces sentiments qui vont permettre à Dieu, chers frères et sœurs, de nous faire entendre cette même parole « Je suis avec vous ». En sorte que ce qui pourrait paraître un pessimisme de commande dans nos cœurs par la grâce du Seigneur devient un cœur humilié et affligé auprès de qui le Seigneur fait et en qui le Seigneur fait son habitation. Je suis avec vous. La même grâce, mes chers amis, qui a suscité, voici un siècle et demi, au témoignage du Seigneur auquel nous sommes attachés, que nous désirons retenir dans nos cœurs. Oserions-nous dire que nous en faisons encore partie? Mais la grâce du Seigneur nous donne de nous attacher à ce témoignage. Et avant de m'asseoir, je rappellerai des mémoires aussi exactement que je le puisse. et qui fut écrit il y a maintenant 120 ans ou à peu près, par l'un des serviteurs suscités pour établir les fondements de ce témoignage, mettre en relief tout ce sur quoi la foi devait s'appliquer, à quoi la foi devait s'appliquer, et qui disait, le témoignage de notre temps, c'est toujours plus vrai, le témoignage de notre temps est le témoignage rendu à la fidélité de Dieu, par ceux qui sentent la ruine, la confesse et s'en humilient. Et il ajoutait, après la première grande épreuve, le premier ravage, toujours sensible de l'ennemi au milieu de ce témoignage, il ajoutait, c'était en 1851, les frères ont trop pensé à leur témoignage. Ils en étaient fiers. Et de deux choses l'une. Ou ils sont humiliés pour pouvoir retenir le témoignage. Ou le témoignage leur sera ôté et sera donné à d'autres. Au travers de ce qui est notre véritable douleur, chers frères et sœurs, il faut que nous la sentions. Au travers de ce qui est notre humiliation profonde, nous pouvons quand même regarder au Seigneur qui a été fidèle et qui, dans son infinie miséricorde, ne nous a pas ôté le témoignage, mais nous accorde de désirer retenir ce témoignage. Nous sommes à la fin du voyage de l'Église et le témoignage va prendre fin en celui qui, témoin fidèle, montrera comment la grâce et la miséricorde se glorifient vis-à-vis du jugement quand il nous prendra auprès de lui selon l'espérance que nous avons évoquée. Quand lui, le témoin fidèle, alors manifesté comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs, établira sur cette terre son règne de justice et de paix, nous serons avec lui. Quel encouragement! Eh bien, écoutons maintenant ce que Agé le prophète disait à ses deux grands responsables, comme aussi au reste, à tout le reste du peuple, de la part de l'Éternel.
Donc, quant à la structure de la prophétie d'Agé, on vient de l'entendre, la prophétie d'Agé se divise en quatre oracles. Nous avons dans ces deux chapitres quatre messages qui ont été confiés par l'Éternel à son serviteur, à son messager Agé. Le premier oracle, début du livre, a été prononcé au sixième mois, le premier jour. On vient de l'entendre également, c'est avant tout un message de répréhension. Et l'Esprit de Dieu, par le prophète, dans cet oracle, qui dénonce le découragement du peuple, mais un découragement qui avait une cause profonde. D'où venait ce découragement, si ce n'est d'un manque patent d'intérêt à l'égard des choses qui concernent Dieu, et une augmentation de l'intérêt personnel pour les choses qui nous concernent, c'est-à-dire une augmentation, une aggravation de l'égoïsme de cette peuple. Et cet égoïsme que nous avons par exemple mentionné dans ces mots, et vous courez chacun à sa propre maison, cet égoïsme est dénoncé là. comme étant à l'origine de ce manque d'intérêt pour les choses de Dieu et de là pour ce découragement à l'égard de ses intérêts. C'est donc avant tout ce premier message, ce premier oracle, un message de répréhension. Par la grâce de Dieu, ce message a été reçu et nous voyons à la fin du chapitre que 3 semaines plus tard, alors le peuple, en effet, a écouté, le peuple a craint Dieu et le peuple s'est remis à l'œuvre. En effet, verset 15, je l'ai dit, le 24e jour du 6e mois, en la seconde année du roi Darius, ils vinrent et travaillèrent à la maison de l'Éternel, les armées, leurs dieux. Donc, un premier oracle prononcé au 6e mois, le premier jour. 3 semaines plus tard, le 24e jour, le peuple a écouté une telle répréhension, il a craint Dieu et il s'est remis à l'œuvre de la maison d'Éternel. Au chapitre 2e, deuxième oracle, deuxième message confié à Agée, qui alors est un message qui transmet au peuple, qui rappelle au peuple la grâce invariable de Dieu, les ressources infinies de cette grâce, d'une grâce qui ne change pas, qui ne varie pas, qui est inaltérable. Nous nous changeons, nous nous varions, la grâce de Dieu demeure invariable. Et les ressources de Dieu sont aussi puissantes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient dans le temps que nous venons d'évoquer il y a 120 ans. Et il en était de même pour le résidu remonté de la captivité. La grâce de Dieu, les ressources de la grâce de Dieu n'avaient absolument pas changé, ne changent pas, elles sont inaltérables. La grâce de Dieu était aussi patente qu'au jour glorieux du roi Salomon. Dans ce chapitre deuxième, deuxième oracle, deuxième message, qu'a donc été prononcé 1 mois et 3 semaines plus tard, 7e mois, au 21e jour, nous avons donc le rappel des ressources de Dieu. Ma parole, est-il dit, et mon esprit demeure au milieu de vous. Je n'ai pas changé, dit l'Éternel des armées. Je suis avec vous. Cette parole magnifique, je suis avec vous, qu'on vient de rappeler à la fin du chapitre premier, nous l'avons aussi dans le deuxième chapitre. Je n'ai pas changé. Je vous assure de ma présence. Ma parole est là. Mon esprit est là. Il demeure au milieu de vous. Qu'avez-vous donc à craindre? Ne craignez pas. Ne craignez pas. Et alors, par ce second message, l'Esprit de Dieu nous amène au-delà des circonstances vécues par le peuple en ce temps-là, au-delà, nous amène dans un temps futur, ce temps que l'on vient également d'évoquer quand on a parlé d'un règne de justice et de paix, c'est-à-dire le millénium. Ce second message, plein de promesses et de certitudes, va jusqu'au jour du millénium. Quand il est parlé du Christ comme étant l'objet du désir des nations qui viendra. Troisième message, chers amis, nous ne voulons pas être longs, on nous a recommandé d'être bref. Troisième message, chapitre 2e, verset 10, c'est 2 mois plus tard. 9e mois, au 24e jour, que un troisième message est confié à Agée et par lui communiqué au peuple. Et dans ce troisième message, nous avons de nouveau, comme dans le premier, des paroles de répréhension. Donc, chapitre 2, verset 10 et suivant. Et quel est le sujet, le grand sujet de ce troisième message? C'est le sujet de la séparation pour Dieu, de la sanctification pratique. Ah, Dieu doit dire, je vous en ai parlé souvent de cette sanctification, je vous en ai souvent parlé de cette séparation pour moi, mais vous n'avez pas écouté mes paroles. Dieu doit même dire par le prophète, aucun d'entre vous n'est revenu. Mais est-ce que ce message se termine sur cette sombre note, aucun d'entre vous n'est revenu? Non. Dieu encourage par son prophète le peuple à revenir dans un tel chemin de séparation et de sanctification à la gloire de son nom. Et alors, nous avons ce court verset qui a été tant de fois mon encouragement à beaucoup de croyants. Dès ce jour-ci, je bénirai. C'est-à-dire que si vous revenez dans ce chemin de sanctification et de séparation, alors je pourrai vous bénir. Je pourrai vous bénir abondamment. Je pourrai, comme dit le dernier oracle de l'Ancien Testament, je pourrai ouvrir sur vous les écluses des cieux et verser sur vous la bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Dès ce jour-ci, vous bénirez. Mais si vous revenez dans ce chemin où je puis être honoré, dans ce chemin de séparation. Et alors, dernier oracle, qui a été prononcé le même jour, le 24e jour du 9e mois, âgé, le même jour, a prononcé les deux derniers oracles. Le dernier, nous l'avons donc au verset 20 de ce chapitre 2. Il est bien dit, la parole de l'Éternel vint âgé pour la seconde fois, le 24e jour du mois. Et alors, de nouveau, dans ce quatrième oracle, nous avons des promesses. Dieu, de nouveau, dans sa grâce, émet des promesses pour son peuple, et des promesses qui ne concernent pas seulement le temps où le résidu vivait, mais promesses par lesquelles nous sommes amenés jusque dans ces temps de gloire, temps futur, temps du millénium. Temps où, en effet, la bénédiction sera versée sur la terre des jours qui viendront. Et alors, dans les derniers versets du prophète, quatrième message du prophète, nous avons le tableau de cette bénédiction qui sera répandue bientôt un jour sur la terre habitée tout entière. Ce sera l'ère glorieuse du millénium, ce règne en effet de justice et de paix. Ce sont là, chers amis, les quatre oracles, les quatre messages confiés par Dieu à son serviteur, à l'adresse du peuple. Le premier et le troisième étant des messages de répréhension, et le deuxième et le quatrième étant des messages où la grâce de Dieu est présentée, un message plein de promesses et de certitudes.
La destruction de Jérusalem était un événement de première grandeur dans l'histoire du monde. Parce que Jérusalem et Israël devaient être, et doivent être, le centre de bénédiction pour la terre tout entière. Cela aurait pu se réaliser si le peuple avait répondu à ce que Dieu lui avait confié. C'est toujours vrai pour la terre. Jérusalem, le peuple juif, sont ce par quoi la bénédiction après laquelle toutes les nations soupirent sera un jour établie. D'autre part, Jérusalem était le lieu du trône de l'autorité de Dieu dans son peuple. Dieu était lui-même le centre de l'autorité. Ce sera aussi vrai en Christ plus tard. Et que Dieu se retira, comme nous le voyons en Ézéchiel, était un événement, encore une fois, d'une incalculable importance. Un véritable bouleversement dans l'histoire du monde tout entier. La preuve, c'est que, après cela,
Dieu a retiré définitivement le pouvoir à son peuple, c'est-à-dire a ôté à son peuple le privilège et la gloire qui était le sien d'être le dépositaire du pouvoir suprême, exercé par Dieu habitant dans son peuple. Et il a confié l'autorité à d'autres. Et nous voyons à la suite de cela que commence l'histoire des empires, laquelle histoire n'est pas finie, et que nous voyons liée à l'histoire du peuple d'Israël, l'histoire des quatre empires, Dieu retirant l'autorité à son peuple, autorité qui s'exerçait par lui-même, n'est-ce pas ? Il a donné cette autorité à des chefs. Et ce sont les quatre empires qui se sont succédés. De la part de Dieu, il n'y a rien à faire. Le dernier des quatre est un empire romain qui est mêlé à l'acte le plus solennel, n'est-ce pas, c'est-à-dire le rejet du Christ, dont les Juifs sont coupables, pas les 12 tribus, seulement les deux, sont coupables et auront à en rendre compte. Elles l'ont déjà fait passablement. Mais le pouvoir impérial, représenté alors par l'Empire romain, aura à répondre aussi, n'est-ce pas, de ce rejet de Christ. Dieu n'oublie rien. Tout ce qu'on a fait à son fils est gravé dans sa mémoire dans les moindres détails. Et l'ordre ne sera pas rétabli sur la terre avant que toute chose soit réglée. Nous sommes sur le terrain prophétique, bien entendu. Mais la prophétie quant à nous-mêmes ne nous touche pas. Il n'y a pas de prophétie pour l'Église. Elle nous intéresse parce qu'elle touche à la gloire de Christ et au bien du peuple qui lui est cher, malgré tout, c'est pas lui est cher. Et puis la gloire de Christ dans le règne millénaire. Et nous ne serons pas si loin que cela de lui quand il règnera, ça, nous serons plus frais que beaucoup d'autres, et que tous les autres. Mais tout cela touche indirectement l'Église, la prophétie elle-même. Israël c'était la terre des prophètes, on n'avait pas cela ailleurs, ils prophètes. C'était la terre des prophètes, c'était un peuple qui avait été honoré d'une façon qui est tout à fait extraordinaire et qui est par conséquent coupable d'une façon non moins exceptionnelle. Les prophètes étaient suscités à un moment ou à un autre en général pour deux choses. Premièrement, pour faire appel à la conscience du peuple quand il était en train de mal s'orienter, un rappel à la fidélité. Et secondement, étant donné que l'homme est un être absolument incorrigible, et que dans toutes les situations où il est placé, il est toujours infidèle, le prophète en même temps, comme s'il se lassait d'exhorter, sachant que l'exhortation demeurait au fond vaine, toujours porter les regards plus loin. Au-delà du moment qui avait suscité la nécessité de la promesse et donnait pour la foi qu'il y avait alors et qu'il devait y avoir ensuite, donnait une véritable source de consolation au milieu de l'histoire des ruines qui est celle de l'homme, la nôtre y compris, n'est-ce pas ? C'est trop facile de parler de choses lointaines dans le temps ou dans l'espace. Nous les appliquons à nous-mêmes. Le prophète donc portait les regards vers le moment où Dieu donnerait ce qui ne pourrait pas être gâté. Alors, si la prophétie n'est pas proprement pour nous, tous les éléments moraux qui sont en jeu dans les instructions prophétiques dans les messages prophétiques, comme nous en avons écrit et toujours, tous les éléments moraux ont une valeur permanente et universelle. Celle-ci nous intéresse toujours. Il y a dans les leçons des prophètes, quelles qu'elles soient, des instructions à tirer pour les chrétiens, parce qu'au fond, toutes les questions se ramènent à des questions morales. L'infidélité extérieure, les idoles qui étaient entrées dans le temple de Dieu, n'est-ce pas? Combien de fois nous avons vu que les rois fidèles ont eu à balayer le temple, à enlever des idoles qui étaient là à l'œuvre? Combien de fois nous voyons cela? Mais ces infidélités extérieures n'étaient que la révélation bien plus grave de ce qui se passait dans les cœurs. Et toujours donc, nous voyons que quels que soient les faits extérieurs que Dieu signale ou dont il s'occupe, là, toujours, et voilà pourquoi il y a un enseignement permanent pour tous, en tournant toujours en cela, le fond de l'affaire, c'est toujours cette effrayante infidélité du cœur de l'homme. Son amour de lui-même, son amour de ce qui est mal, n'est-ce pas? Cette tendance à aimer le mal. L'histoire de l'homme justifie toute l'écriture quand elle condamne l'homme sans rémission. Nous souscrivons parfaitement cela, avec humiliation, mais c'est sur le chemin de la vérité qu'on trouve la vérité, et pas ailleurs. Et donc, ce que les prophètes disent à la conscience des saints, que notre conscience l'entende et le retienne. La manière dont le prophète, la part de Dieu, met le doigt sur les véritables points, n'est-ce pas, de culpabilité du peuple, qui nous soit donné d'y prendre garde. Mais ce que nous voyons tout de même, toujours, c'est que c'est dans ce réveil qui a été produit. Qu'est-ce qui prend l'initiative? Zorobabel ou Josué? Non. C'est toujours Dieu. Toujours Dieu. Il ne donnera pas sa gloire à un autre. Aucun réveil n'a été produit au fond et d'abord que par Dieu. Et dans le témoignage du siècle dernier, vous n'avez jamais trouvé les serviteurs fidèles ouvriers de ce témoignage, de la formation de ce témoignage, et dites, c'est moi qui ai eu l'initiative, c'est moi qui y ai pensé. Ils ont tous proclamé et par écrit et par tout leur comportement, imitons-les, c'est ce que nous avons à faire. Ils ont tous proclamé qu'ils ne faisaient qu'obéir à un ordre intérieur, à un appel intérieur qui leur avait été adressé, et c'est ce qui a fait leur fidélité et exclusivement leur force. On n'est rien. Dieu est là. La voix vient à Zorobabel, la voix de l'Éternel. De même que Dieu, quand il le convoit, bien il réveille Cyrus, il réveille. Et plus loin, il réveille le peuple. Gloire soit rendue à Dieu. Écoutons-le. Écoutons le Seigneur. Suivons-le. Tenons-nous derrière lui. Ayons-le devant nous. Et il y a là une masse d'instructions extrêmement d'actualité sur l'Église aussi, n'est-ce pas, à abandonner sa gloire. Elle l'a abandonné, elle a mondanisé, elle s'est mise sous le pouvoir du monde, sous le pouvoir du monde. Et nous n'avons qu'à lire ce que le Seigneur dit dans l'Apocalypse de la prostituée, n'est-ce pas, ce qu'elle a fait et ce qu'elle fait. Eh bien, c'est la même Église, n'est-ce pas, qui porte le nom d'Église, au sein de laquelle le Saint-Esprit a travaillé pour la formation d'un résidu qui n'est pas l'Église, mais qui a le privilège et le devoir, il n'en a pas d'autre, de représenter quelque chose des traits permanents de l'Église selon la pensée du Seigneur. Si un témoignage n'est pas exercé pour avoir, selon le Seigneur et par sa grâce, pour porter les caractères de l'Église comme toujours l'Église aurait dû le faire, il n'en est plus un. La mesure n'est pas de sa grâce, de son privilège et de sa responsabilité, n'est rien d'autre que cela.
Que le cœur du peuple fut endurci pour qu'au jour du Seigneur il puisse tenir un langage semblable, nous n'avons jamais été dans la servitude de personne. Il l'était depuis le jour où la gloire avait quitté le temple, il l'était. Ici, le peuple est soumis à l'autorité du deuxième des grands monarques des Gentils, de Darius, et il l'a été constamment jusqu'au jour où Seigneur Jésus est venu sur la terre et où il était sous l'autorité du quatrième de l'Empire romain. Et quand le Seigneur Jésus vient leur parler d'affranchissement, de libération, de les placer dans la liberté, il vient dire avec orgueil et arrogance: nous sommes la postérité d'Abraham et nous n'avons jamais été dans la servitude de personne. Jean 8. Fallait-il qu'ils fussent aveuglés et leur cœur endurci pour tenir un langage semblable et ne pas même reconnaître qu'ils étaient véritablement asservis à l'autorité de monarques étrangers?
Le Seigneur a dit à celui qui détenait le pouvoir, il n'a pas contesté la légitimité du pouvoir que détenait Pilate. Mais il l'a en même temps exprimé. Quelle était sa dignité en présence de celui qui détenait l'autorité? Il n'aurait aucun pouvoir s'il ne t'était donné d'en haut. Le Seigneur a été parfait comme homme vis-à-vis des autorités auxquelles il avait affaire et qui le traitaient de la manière dont nous savons. Nous avons à reconnaître les autorités et nous n'avons pas à dire que l'Église de laquelle nous faisons partie n'a pas été et n'est pas infidèle. Nous avons à reconnaître qu'elle l'est et que nous le sommes, n'est-ce pas que nous le sommes. Cet état de choses est celui que le Seigneur permet. La fidélité consiste à se courber devant le Seigneur dans ce qu'il permet. Et nous devrions être, n'est-ce pas, frères et sœurs, les plus humbles de tous les chrétiens du monde, les plus conscients du privilège qui nous est accordé dans la connaissance de la vérité comme elle nous a été, placée entre nos mains, mais en même temps bien loin de nous en prévaloir, nous devrions être des modèles. C'est bien loin, souvent, d'être le cas. Des modèles dans la réalisation d'une séparation d'avec un état de choses que le Seigneur n'approuve pas et que nous ne pouvons pas approuver, mais que nous ne pouvons pas changer nous-mêmes. Et il y a là, notons-le, une leçon quant au gouvernement de Dieu. Nous récoltons ce que nous avons semé, nous en souffrons, acceptons la souffrance. C'est une loi dans la façon d'agir de Dieu envers ceux qui aiment. Avec le Seigneur, on n'est jamais embarrassé. Sans lui, il n'y a point d'issue, dans aucune situation. Avec lui, il y a un chemin. Et le Seigneur a ouvert ce chemin, encore une fois au siècle dernier, Je voulais dire encore justement ceci, que sûrement, d'après ce que l'on peut savoir l'histoire de l'Église sans y consacrer sa vie, là, consacrer sa vie à cette étude, on a autre chose à faire. Mais sûrement, depuis le départ des apôtres, ou peu après, n'est-ce pas, l'Église est tombée très tôt, et la période des terres de l'Église qui a suivi est loin d'être une période brillante, il s'en faut bien, même doctrinalement parlant, il s'en faut. Mais la remise au jour des prérogatives, des privilèges, du caractère, de la mission, de la position de l'Église, n'a tout cela, cette remise au jour, n'a eu lieu depuis les apôtres qu'au siècle dernier. La réforme a été autre chose. D'une capitale importante, nous sommes bien d'accord, nous ne jugeons rien, n'est-ce pas, nous constatons les faits, nous constatons les fruits que l'Esprit de Dieu dans son travail a produit dans diverses époques. Et le travail de la réforme a été immense, il a d'ailleurs pu préparer justement le témoignage des derniers jours. Mais quant à la manifestation de la pensée du Seigneur vis-à-vis de l'Église dans les Écritures, jamais on n'a trouvé cela depuis les apôtres, et on peut dire de toutes les Écritures. En passant, nous disons non, et nous disons aux jeunes, et nous nous disons à nous-mêmes, que nous prenions garde, n'est-ce pas, à bien retenir la grâce qui nous a été faite d'être les dépositaires de tous les trésors de la pensée du Seigneur quant à l'Église, et de ne pas manquer l'occasion de faire valoir ce qui nous a compté. Sinon, nous recommencerons l'histoire de ce peuple avec une culpabilité bien plus lourdement aggravée.
Une pensée qui doit nous remplir de reconnaissance envers Dieu, elle est à la gloire de son nom. C'est que, quelles qu'aient été les infidélités de l'Église, l'affreux commerce dont elle a usé vis-à-vis des autorités au-dessus desquelles elle a voulu dominer, par le moyen desquels elle a voulu établir sa puissance. Et nous ne faisons allusion à nulle Église en particulier, mais à l'Église comme co-responsable, quel qu'ait été cet état, pour la gloire du Seigneur. Oui, pour la gloire du Seigneur. Il s'est toujours trouvé, dans tous les temps, des âmes pieuses, des âmes sincères, des âmes jouissant du travail de la parole de Dieu par son esprit dans leur cœur, et qui, en tous les temps, ont constitué, connus ou inconnus, mais beaucoup moins connus qu'inconnus, ce résidu pieux qui, de tous les temps, a regardé au Seigneur et s'est attaché à lui. C'est une pensée qui doit être pour nous extrêmement précieuse. On en a le témoignage, de nombreux témoignages, mais ce dont nous sommes sûrs, sans avoir ces témoignages, que Dieu de tous les temps s'est conservé un peuple pour lui, ne fut-il constitué que par quelques unités faibles, méprisées. Il suffit de remonter au temps d'Élie et de nous souvenir de l'encouragement et de la répréhension qui était contenue à l'égard du prophète dans cette parole de l'Éternel. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Mais si cela nous encourage, mais si cela nous réjouit en pensant à notre cher Sauveur, ayant dans les temps les plus sombres de l'histoire de l'Église, garder sa parole et être épargné de renier son nom. Mes chers amis, ce qui vient de nous être rappelé et sur quoi nous ne pouvons qu'insister avec douleur, quant à notre responsabilité, à la mesure de nos privilèges, il faut que cela s'impose à chacune de nos âmes. Et je me tourne vers tes chers frères, et nous nous regardons les uns les autres, et nous nous disons, qu'en est-il de la conscience que nous avons, du service que le Seigneur nous a confié? Qu'en est-il de nos devoirs à l'égard des jeunes générations, au sujet desquels peut-être nous serions portés à être plus sévères que bienveillants? Avons-nous la conscience de notre responsabilité? C'était bien tout le peuple que Dieu avait en vue. Mais le message vient pour Zorobabel et pour Joshua, c'est-à-dire pour les deux grands responsables. Alors il faut que nous courbions la tête. Je détends un moment les esprits en rappelant une répartie de l'un de mes oncles s'adressant à un prêtre de l'Église catholique. Il n'y a pas ici question de discrimination, mais il y a cette pensée sur laquelle je crois qu'il faut que nous arrêtions un moment. C'était un homme pieux, cet ecclésiastique était aussi un homme pieux. Et ils fuyaient souvent ensemble pour deviser et s'entretenir des choses qui étaient leur part commune. Et le vieil ecclésiastique, selon la tendance commune aux ans, chargé d'expérience, se lamentait sur le déclin moral, sur le peu d'intérêt pour les choses de Dieu, et volontiers, il jetait une sorte d'anathème sur ceux qui, c'est bien vrai, reniaient trop facilement, non pas la foi des pères, mais au moins les apparences extérieures de la religion. Excédait un jour, le cher chrétien lui dit, « Mais, cher monsieur, c'est de votre faute. » « Comment ? » ?»« Mais certes, c'est de votre faute. N'avez-vous pas fait partie, vous comme moi, de ceux qui étaient responsables devant ces générations ?» Eh bien, il faut que nous fassions tous notre examen de conscience. Si peu que nous ayons reçu de la part du Seigneur, chaque fois je sais, pour montrer l'intérêt à ceux que le Seigneur nous a mis en charge, nos enfants ou les enfants de l'Assemblée, pour ne rien dire, du jeunesse qui autour de nous se réveille et aspire à autre chose qu'à des formes et qui inconsciemment ou plus exactement sans qu'elle se rende compte de la portée de ses aspirations voudrait autre chose que l'enseignement. Celui qu'on leur donne dans les facultés, dans les écoles, ou celui qu'on leur donne du haut des chairs, où se sont assis ceux qui pensent parler au nom du Seigneur. Qu'est-ce que nous leur avons montré, mes chers amis, comme intérêt? Qu'est-ce que nous leur avons désigné comme étant le chemin du Seigneur? Qu'est-ce que notre vie, car il s'agit beaucoup plus de notre marche que de nos paroles, qu'est-ce que notre vie a pu inspirer de souhait de marche selon la parole et du désir de servir le Seigneur? Mes amis, c'est ce que nous avons un peu plus loin recherché de voir. Archip s'était entendu dire, en garde au service que le Seigneur t'a confié. Et Paul, prenant congé des anciens d'Éphèse, leur rappelle leur responsabilité au milieu du troupeau. Et même l'apôtre Pierre, vers la fin de sa carrière, quand il allait déposer sa tente, il rappelle aux anciens, ceux qui étaient anciens avec lui, quels étaient leurs devoirs à l'égard des nouvelles générations. Que Dieu, dans sa grâce, mes chers amis, nous donne de nous courber maintenant tous ensemble dans une confession commune sur toute la solennité des reproches que l'Éternel adresse à ceux à qui il dit « Considérez bien vos voies ». Il s'agit des bénédictions de la terre, il s'agit du rendement de leurs champs, il s'agit de tout ce qui conditionnait la précaire existence sur une terre autrefois riche et abondante, n'en fruit maintenant marqué de toutes ces disciplines solennelles que Dieu énumère. Et pour ce qui nous concerne, chers amis, il s'agit de beaucoup plus que de nos champs, que de nos activités professionnelles, que de nos devoirs à l'égard de ce monde. Pourquoi si peu d'encouragement dans nos assemblées? Pourquoi des bancs qui se désertent? Pourquoi une jeunesse qui s'oriente mal? Pourquoi des mésalliances qui nous sont un deuil? Pourquoi tout ce qui semble s'apesantir sur nous de la part du Dieu juste? Eh bien, c'est pour que nous considérions bien nos voies. Et finalement, c'est pour que nous arrivions à cette conclusion, notre maison, nos maisons, notre établissement sur la terre, sur quoi nous trouvons une certaine satisfaction et le légitime, le fruit de nos travaux. Ou bien, ce que l'Éternel appelle ici avec insistance, ma maison, ma maison. Elle était en ruine. Pratiquement, c'était une ruine. Il y avait 14 ans qu'on avait commencé à en poser les fondements. Il n'y a rien de plus triste qu'une maison inachevée, qu'une maison sur laquelle on n'a pas mis de couverture. Pourquoi devait-il monter dans la montagne et couper du bois? Mais c'est parce que l'écharpement elle-même n'avait pas été taillée. Il n'y a rien de plus triste qu'une maison abandonnée à toutes les intempéries. Quelques années après, c'est une ruine. Et c'était cela qui était à leurs yeux, la maison. C'était aux yeux de l'Éternel, ta maison. Montez dans la montagne, coupez du bois, apportez le bois à ma maison, hâtez-vous de couvrir, faites en sorte que si l'arche ne peut plus y revenir, je puisse au moins y voir mon culte offert comme je l'entends. C'était une chose impossible. C'est bien vrai que l'autel était sur son emplacement et que là, devant la maison, on sacrifiait les holocaustes et s'y était prescrit. Mais la gloire de l'Éternel ne pouvait pas, c'est vrai, rentrer dans cette maison, mais pourtant son nom y être invoqué. Était-il possible de le faire devant cet embryon d'édifice si petit à leurs yeux? Mais à l'égard duquel était cela qui doit saisir nos cœurs, à l'égard duquel Dieu lui dit, dans le jour de la dédicace du temple, mes yeux et mon cœur seront toujours là. Rien n'est changé, mes chers amis. Et si faibles que nous soyons dans le service du Seigneur, si indolents, si négligents, quant à nos devoirs, parce que, au fond, nous n'avons pas saisi la portée de nos privilèges, parce que nous n'aimons pas l'assemblée de Dieu, laquelle, pourtant, il s'est acquise au prix du sang de son propre fils. Mes chers amis, qu'est-ce qui nous tient à exercer si nous avons un moment de répit, mais si, dans nos insomnies, Dieu nous accorde la grâce d'une audience avec lui? Qu'est-ce qui nous tient à exercer? Vers quoi vont nos pensées? Qu'est-ce qui nous invite sur nos couches? Ou bien, est-ce que le service le plus précieux, celui qui est départi à tous, aux frères comme aux sœurs, aux jeunes comme aux vieux, est-ce que ce service nous tient réveillés? Et je permets à mes yeux de dormir et à mes paupières de sommeiller. Sinon, les intérêts de l'assemblée locale, telle et telle maison, telle et telle famille, où nous sentons qu'il y a ceci ou cela qui est un piège, ou une voie de chagrin, nos propres familles, cela va sans dire. Mais le témoignage en son ensemble, est-ce que nous sommes intéressés à ces choses de Dieu? Est-ce que ce qui touche la prospérité spirituelle de nos frères et de nos sœurs, nous l'avons à cœur? Il y a ce qui me tient à siéger tous les jours, la sollicitude pour les assemblées de Dieu. On dira, monsieur Restreint, la maison a ce champ étroit de ce que nous savons être le témoignage du Seigneur. Oh, mes chers amis, que Dieu nous garde de penser ainsi. Mais si dans sa grâce, au milieu de cette grande maison, qui se glorifie de son état, qui tend toujours à s'agrandir, et selon la pensée constante de l'homme, à dominer, est-ce qu'au milieu de cette grande maison de la profession chrétienne, que nous ne pouvons pas abandonner, au milieu de laquelle nous sommes, est-ce cela qui nous tient en souci? Le bien d'autres, amis chrétiens, d'autres frères et sœurs, dont nous avons fait, dont nous avons connu quelque chose, leurs sentiments dans un contact peut-être rapide, mais consolant pour nous, n'est-il pas très précieux, chers amis? En dehors de ce qui est le cercle habituel de nos connaissances et visant les assemblées avec lesquelles nous avons communion, n'est-il pas précieux de communier, oui, vraiment, ne serait-ce qu'un moment, avec un chrétien de ceux que nous appelons les systèmes, et ce sont bien des systèmes, et même de ceux qui sont encore rattachés à cette grande maison, dans ses exigences et sa prétention, échanger quelques paroles de sympathie chrétienne, parler ensemble du Seigneur, quel bien cela fait à nos âmes, quelle consolation à l'égard du désordre et de la confusion et d'une ruine à laquelle nous avons tous participé. Quel encouragement est-ce que cela nous tient occupés, mes chers amis? Est-ce que nous savons prier pour cela? Poser la question nous oblige à baisser la tête, mais que Dieu nous accorde, dans le moment où nous rend attentifs à ces choses, épargnés de toute pensée de supériorité, tenus dans l'humilité, et c'est la grâce seule qui nous rend vraiment humbles, que Dieu nous accorde de réaliser ces soucis de sa maison, cet intérêt pour sa maison, la maison de Dieu, là où l'Esprit, est encore présent, la maison de Dieu, au milieu de laquelle le témoignage doit être rendu à la gloire de celui qui l'a édifié lui-même. Prenons garde à ces choses, mes chers amis, en confessant nos manquements, élevons nos cœurs en haut, et revenons à lui, écoutant la voix de l'Éternel et craignant l'Éternel, comme ce fut le privilège du peuple tout entier.
Vont parler de Agé lui-même dans les Écritures. À part notre livre, il y a deux autres passages dans le livre d'Esdras. Nous allons les lire ensemble dans le livre d'Esdras, au chapitre 5 et au chapitre 6. Esdras, chapitre 5. Les deux premiers versets. Et les prophètes, Agé le prophète et Zacharie fils d'Ido, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel fils de Shealtiel et Jéhoshua fils de Josadac se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu qui est à Jérusalem, et avec eux les prophètes de Dieu qui les assistaient. Le second passage au chapitre 6, le verset 14. Et les anciens des Juifs bâtirent et prospérèrent par la prophétie d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Ido, et ils bâtirent et achevèrent selon l'ordre du Dieu d'Israël et selon l'ordre de Cyrus et de Darius, et d'Artaxerxès, le roi de Perse. Et cette maison fut achevée. Il n'est donc pas souvent parlé d'Agé, mais dans ces deux passages, est-ce que nous n'avons pas de riches renseignements donnés de la part de Dieu concernant la personnalité du prophète et du reste de son compagnon Zacharie? Il nous est donc dit tout d'abord que ces deux prophètes prophétisèrent, et ils prophétisèrent au nom du Dieu d'Israël. Ils avaient conscience qu'ils étaient en ce temps-là, dans de telles circonstances, au milieu de leur peuple, des représentants de Dieu, parlant en son nom et parlant pour lui en vue de sa gloire. Mes chers amis, Agée n'a pas seulement prophétisé, dans ce sens, il n'a pas seulement prononcé quelques discours d'une manière solennelle. Certainement, nous avons dans notre prophétie ces quatre oracles extrêmement solennels, mais Agée n'a pas fait cela. Il y a une deuxième mention concernant son ministère, nous l'avons vu au verset 2, Zorobabel et Jésus ont commencé à bâtir la maison de Dieu, et avec eux les prophètes de Dieu qui les assistaient. Il n'y avait donc pas seulement une prophétie solennellement émise de temps à autre, selon que Dieu lui en donnait l'ordre, de la part du prophète, mais il y avait des interventions constantes de sa part aux côtés de Zorobabel et de Jésus. Il est parlé de ces prophètes qui les assistaient. Il y avait de la part d'Agée et de Zacharie une assistance continuelle, assistance vraisemblablement spirituelle et morale avant tout, mais ils étaient là. Nous nous les présentons comme étant aux côtés de Zorobabel et Jésus pour constamment les encourager dans ce travail de la reconstruction de la maison. Il y a quelque chose qui doit retenir notre attention et qui doit nous parler dans ce verbe « assister ». Ils étaient là, les assistants, leur aidant constamment, continuellement, restant près d'eux, ne se contentant pas simplement d'exprimer de temps à autre une prophétie selon le moment choisi de Dieu. Mais il y avait cette intervention, cette aide, cette assistance de tous les moments auprès de Zorobabel et de Jésus. Et chers amis, dernière pensée, quel a été le résultat d'une telle activité constante aux côtés de Zorobabel et de Jésus? Eh bien, le verset 14 du chapitre 6 nous le dit. Ceux qui ont été ainsi les objets de cette assistance continuelle de la part d'Agée et Zacharie ont prospéré. Non seulement ils ont été réveillés, non seulement ils sont mis à travailler, mais encore dans leur travail, ils ont prospéré. Et les anciens des Juifs bâtirent et prospérèrent par la prophétie d'Agée, le prophète, et de Zacharie Sivido. Chers amis, est-ce pas là un ministère remarquable? Mais est-ce que ce n'est pas là le résultat enviable de toute activité, et en particulier de tout ministère de la part de Dieu? Mais quel est donc ce résultat? Rien moins de cela. Ceux qui en sont les objets prospérèrent, les anciens des Juifs prospérèrent. Et la maison a été construite et a même été achevée. Cette maison fut achevée le troisième jour du mois d'Adar. Il me semble, chers amis, qu'il y a quelque chose à retenir de ce court laps de temps que fut l'activité d'Agée. Au fond, d'Agée, la parole de Dieu nous dit qu'il a travaillé, qu'il a servi pendant combien de temps? Pas pendant bien longtemps, 3 mois et 24 jours. Nous avons vu, il a commencé le premier jour du sixième mois et son dernier message date du 24e jour du 9e mois. à peu près 4 mois, un peu moins 4 mois. Et voilà, chers amis, le résultat de cette brève activité, de ce bref ministère, le résultat, la prospérité pour ceux qui en sont les objets. Il nous semble que ces quelques considérations, fort simples par ailleurs, doivent quand même nous parler et nous encourager.
Nous disons aussi que c'était la 6e année du règne du roi Darius. Et ici, nous sommes dans la seconde année du roi Darius. Donc, on a travaillé pendant 4 ans pour finir le travail. Pendant 18 ans, on n'avait rien fait. Le peuple était là, on avait mis l'autel à sa place, on avait commencé le travail au fondement, mais puis pendant 18 ans, on n'avait rien fait. Et il est clair, en 4 ans, on pouvait finir le travail. On a perdu bien du temps. Et c'est une expression que nous employons aussi. Nous avons perdu beaucoup de temps. Ce résultat merveilleux qu'on a repris le travail, c'est par la grâce de Dieu, par le moyen du prophète Agé. Le 4 message commence toujours avec cette expression qui indique la division du livre et la parole de l'Éternel vint. La parole de l'Éternel vint. Voilà le moyen dont Dieu se sert pour son peuple. C'est la parole. Et c'est la force du service d'Agé. Il ne donnait pas ses propres pensées, il exprimait la parole de l'Éternel. Et heureusement, le peuple a écouté, a craint et a repris le travail. Mais c'est la force de l'Écriture, de la parole de l'Éternel. Je pense au service de la parole au milieu de nous. En général, on est très content du culte. Tout le monde est là. Les petits-enfants, aucun manque. Et tout le monde est content du culte. Mais dans l'après-midi ou la soirée, il y a beaucoup de fatigues. Pourquoi? C'est quand même la parole de l'Éternel qui est là. Et voilà notre responsabilité pour tous, d'accepter la parole comme une parole de l'Éternel. Et la responsabilité des frères qui parlent, je vais lire le verset dans l'Épître de Pierre, première Épître de Pierre, chapitre 4, verset 11. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme oracle de Dieu. Agé parlait oracle de Dieu, mais c'est la responsabilité des prophètes du Nouveau Testament, de faire du prophétisme au milieu de nous, de le faire comme oracle de Dieu. Et ainsi, toute la puissance de l'Esprit est là, et alors on ne s'ennuie pas. On y vient avec plaisir pour écouter et pour avoir la riche bénédiction de Dieu.
Avec cela, Dieu met le sceau de humiliation encore sur son serviteur. Dans le livre d'Esdra, quant à Zacharie, nous trouvons encore le nom de son père. Nous trouvons encore une généalogie. Quant à Agé, pas de généalogie. Seulement son nom, Agé le prophète. Quant à son style, ceux qui connaissent l'hébreu disent que c'est un style sans couleur, sans valeur littéraire. Et c'est cet homme, et seulement cet homme, qui est nommé par le Seigneur dans le verset 13, Agé, le messager de l'Éternel. Dans nos assemblées, chers frères et sœurs, Dieu veut employer des frères dans son service. Et dans notre temps d'éducation que c'est le mode que tous nos enfants font du manque à l'université. Il y a le danger que nos enfants qui connaissent le Seigneur soient aux serviteurs du Seigneur et qu'ils disent « Ah, cet homme-là n'a pas d'éloquence, n'a pas d'études universitaires, n'a pas de descendants, n'a pas de parents dans l'Assemblée. » Mais, chers amis, pensons à Aguer. Et seulement nous, jeunes, dans nos assemblées, soit au service d'Aguer. Pas d'honneur pour les hommes, pas de choses pour se glorifier devant les hommes, mais c'était le serviteur de l'Éternel qui venait avec les paroles de l'Éternel.
Les frères sont spécialement responsables parce qu'ils ont le ministère public. Ils sont responsables quant à la manière dont ils, par leur service, répondent aux besoins des âmes. Et nous ne serions trop insistés sur ce qui vient d'être dit que le secret de toute fidélité, de tout vrai service, réside dans le fait que les serviteurs dépendent du Saint-Esprit et de lui seul pour l'accomplir. C'est le Saint-Esprit seul qui fait tout le travail. Toute bénédiction est opérée par le Saint-Esprit tout seul, et non pas par des hommes. Le Saint-Esprit agissant par des frères, par des chrétiens, chacun selon le don qu'il a reçu ou les dons qu'il a reçus, et un frère est responsable de faire valoir les dons qu'il a reçus, il en est responsable devant le Seigneur. Mais à coup sûr, la chair n'est jamais un don. Qu'elle soit cultivée ou non, elle n'est jamais un don. L'absence de culture n'élimine pas de la même manière, n'élimine aucunement l'exercice, parce qu'on peut s'écarter de la dépendance du Saint-Esprit sans être instruit aussi bien que si l'on est instruit. Les exemples, d'ailleurs dans l'Écriture, nous avons face à face un Paul qui était cultivé et un Pierre qui était humainement un esprit cruste. Les deux, l'un et l'autre, ont été employés et comme serviteurs et même comme canaux par lesquels le Seigneur a donné des écrits inspiratifs. Ce qui est très important et explique aussi la faiblesse du témoignage, c'est que nous ne sommes pas assez exercés les uns et les autres pour la qualité des réunions, pour la valeur effective des réunions. Quand nous venons aux réunions chrétiens ou inconvertis, ce n'est pas de vérité que nous avons besoin. Non, les vérités n'ont jamais nourri quelqu'un. Les vérités peuvent nous aider à connaître mieux le Seigneur et par conséquent, nous aider en cela. Mais ce dont nous avons besoin, c'est de Dieu lui-même, du Seigneur lui-même, de la présence de Dieu, que nous soyons seuls ou dans nos maisons ou dans les réunions. Ce qui est absolument, ce sans quoi nous n'avons rien, c'est de jouir de la présence de Dieu. Et un frère, bien placé pour le dire, disait qu'il vaudrait mieux une réunion où il ne se dise rien, et où la présence de Dieu ou du Seigneur, l'art bien quand même, soit réalisée d'une façon puissante, que une réunion remplie d'expressions de vérité qui n'apporte rien. Et l'exhortation qui nous a été faite, elle est pour tout le monde, et nous l'avons dite combien de fois, et dans les réunions d'aujourd'hui. Comment voulez-vous que si une âme ne trouve pas quelque chose qui réponde à ses besoins profonds, l'âme d'un chrétien ou une âme d'un inconverti, comment sera-t-elle attirée aux réunions au sujet desquelles nous disons que nous sommes réunis au nom du Seigneur? Ce n'est pas tout de le dire. Il faut que nous soyons exercés pour le réaliser. Que le Seigneur soit véritablement celui dont nous goûtons la présence, et celui qui nous communique par cette présence le vrai bonheur. N'en doutons pas, les besoins de nos âmes, quelle que soit notre maturité spirituelle, c'est la communion avec le Père et avec son Fils, c'est de cela que nous avons besoin. Quand nous allons voir quelqu'un, un service auprès de quelqu'un, d'une âme, d'un malade, consiste à quoi? En pratique, si l'on n'ose parler ainsi, lui apporter lui remonter cette âme en lui donnant de retrouver la communion qu'elle a perdue avec le Seigneur, soit à la suite de ses épreuves, de ses détresses ou de ses manquements. L'objet des réunions, la véritable édification, est produite lorsque la communion des saints est ainsi établie dans les réunions avec le Père et avec le Seigneur. Par le Saint-Esprit, les services n'ont pas d'autre objet que cela. Dans le ciel, il n'y aura plus de service, parce que la communion ne sera jamais interrompue. C'est bien que le Seigneur nous donne de penser à cela en fait. Parce qu'il est écrit là. Et je voulais encore dire un mot sur le fait et insister. Nous savons un peu les créations de quelques services, un ministère ou un service quelconque, savent que l'accomplissement de leur service exige de leur part un grand exercice, et on peut dire un exercice qui ne cesse pas. Nous ne le réalisons pas, mais nous le sentons. On doit le sentir. Sinon, il n'y a rien de plus dangereux que d'accomplir un service sans cet exercice et cette dépendance. Un service est le fruit d'une dépendance continue, d'une action continuelle du Saint-Esprit agitant dans le serviteur et par son moyen. Voilà le service idéal et ce que nous devons toujours avoir devant nous. Et alors, n'est-ce pas, le prophète disait ici au peuple, voyez, vous vous occupez bien de vos affaires, beaucoup de vos affaires, et vous n'avez pas le temps de vous occuper des affaires de Dieu, de l'affaire du Seigneur. Regardons un peu de nos jours, chers frères et sœurs, regardons un peu, n'est-ce pas, le temps que nous pouvons consacrer à la recherche personnelle du Seigneur dans notre vie de tous les jours. Notre ministère extérieur sera toujours béni en rapport avec la richesse de notre vie de communion avec le Seigneur. C'est la grande affaire, même tout est là, n'est-ce pas, tout est là. Avec le mode d'existence que l'on a aujourd'hui, dans ce siècle de la vitesse, jamais on a eu moins de temps qu'aujourd'hui. Et bien que le Seigneur nous accorde, les frères en particulier, à examiner comment nous pouvons faire, mais pratiquement, effectivement, une place plus grande dans notre vie de tous les jours, en gardant l'équilibre, une place plus grande à la lecture de la parole, à sa méditation. On ne peut pas lire toujours, mais on pourrait méditer toujours, et à la prière. Est-ce que tous les frères, est-ce que toutes les sœurs prient chaque fois, pour chaque réunion, avant la réunion? Est-ce que chaque sœur comprend qu'elle a le devoir de le faire aussi bien d'un frère? Avant chaque réunion, pour ne pas dire après, pour ne pas dire dans l'intervalle qui sort d'autres prières, mais pour chaque réunion, d'une façon précise. Pour que lorsque nous venons dans toutes les réunions, prières, cultes, réunions d'édification, d'évangélisation, toutes les réunions sans la moindre exception, nous ne venions pas à des réunions pour nous rencontrer entre nous, mais nous venions à ces réunions pour avant être placés en contact avec le Seigneur.
À la suite de ce que nos frères ont dit, il y a dans le Nouveau Testament un serviteur dont le ministère a été également enrichissant et qui a amené de la prospérité, au sujet duquel il est dit qu'il était un homme instruit, éloquent, puissant dans les Écritures, et d'autres choses encore. Il s'agit d'Apollos. Et la conclusion d'un tel ministère est l'énumération de tant de qualités venant du Seigneur, quelle est-elle? Il est dit qu'il contribua beaucoup à l'avancement de ceux qui avaient cru. Ce serviteur, lui aussi, comme Agé et Zacharie, a eu un résultat quant à son ministère, un résultat enrichissant. Il y a eu de la prospérité. Mes chers amis, est-ce que s'il a contribué beaucoup à l'avancement de ceux qui avaient cru, est-ce que c'était parce qu'il était éloquent ou à cause des autres qualifications mentionnées? Non, il est dit par la grâce. Il contribua beaucoup par la grâce à l'avancement de ceux qui avaient cru. C'était à cause du Seigneur, à cause de la grâce du Seigneur, qu'il a ainsi non seulement contribué, mais contribué beaucoup à l'avancement de ceux qui avaient cru. Et non pas parce que c'était un homme instruit, éloquent, et à la cause de ses diverses qualifications. Nous avons besoin de nous en souvenir.
Je voulais justement dire, dans ce rapport-là, en terminant la réunion, que, effectivement, le Saint-Esprit se sert des instruments qu'il a qualifiés, quels que soient ceux-ci, leurs origines, leur personnalité. Et le Seigneur, dans le chapitre 13 de l'Évangile de Matthieu, emploie une expression qui convient de souligner. Je vous dis, celui qui reçoit quelqu'un que j'envoie. Et à la note, il est écrit littéralement, qui que ce soit que. Qui que ce soit, quel que soit l'instrument, sa seule, ce qui le légitime, c'est qu'il est qualifié par le Saint-Esprit, par le don qu'il a reçu. Et d'autre part, Paul aux Thessaloniciens dit, celui qui méprise, ne méprise pas l'homme, mais Dieu. S'il ne reçoit pas un don que le Seigneur donne à son assemblée, et comme le Seigneur dit, qui que ce soit que, indépendamment de ce qu'il est en lui-même, de sa personnalité, de son savoir, de sa culture.
Et j'ajoute que les professeurs de théologie qui ont enseigné Apollos, c'était deux faiseurs de temps, Aquila et Priscilla. Ils ont discerné en lui un serviteur de qualité, mais ils l'ont pris et lui ont enseigné plus exactement la voie. C'est magnifique.
On a dit au siècle dernier, justement, que frère éminent disait, je n'ai jamais vu, et sa carrière a été longue et riche, je n'ai jamais vu qu'un quelqu'un qui vivait beaucoup dans la communion avec le Seigneur et qui était rempli de l'Esprit, je n'ai jamais vu que son ministère n'ait pas été apprécié et reçu. C'est ce que nous devons rechercher. Par quel sous-entend l'élimination du moi, quel qu'il soit, instruit ou ignorant, pauvre ou riche, l'élimination du moi. Car la manifestation de l'Esprit dans un homme est la seule démonstration que le moi est mis de côté et que Dieu a pris sa place.